Les mille et une nuits, tome 4, chapitre 7, suite de l'histoire du prince Assad. Assad, cependant, était toujours à la chaîne dans le cachot où il avait été renfermé par l'adresse du rusé vieillard. Et Bostane et Kavam, les filles du vieillard, le maltraitaient avec la même cruauté et la même inhumanité. La fête solennelle des adorateurs du feu approcha. On équipa le vaisseau qui avait coutume de faire le voyage de la montagne du feu. On le chargea de marchandises par le soin d'un capitaine nommé Behram, grand zélateur de la religion des mages. Quand il fut en état de remettre à la voile, Behram y fit embarquer Assad dans une caisse à moitié pleine de marchandises, avec assez d'ouverture pour entrer les airs et lui donner la respiration nécessaire, et fit descendre la caisse à fond de cale. Avant que le vaisseau mît à la voile, le grand vizir Amjad, frère d'Assad, qui avait été averti que les adorateurs du feu avaient coutume de sacrifier un musulman chaque année sur la montagne du feu, et qu'Assad, qui était peut-être tombé entre leurs mains, pourrait bien être destiné à cette cérémonie sanglante, voulut en faire la visite. Il y alla en personne, et fit monter tous les matelots et tous les passagers sur le tillac, pendant que ses gens firent la recherche dans tout le vaisseau. Mais on ne trouva pas Assad, il était trop bien caché. La visite faite, le vaisseau sortit du port. Et quand il fut en pleine mer, Behram ordonna de tirer le prince Assad de la caisse et le fit mettre à la chaîne pour s'assurer de lui, de crainte, comme il n'ignorait pas qu'on allait le sacrifier, que de désespoir il ne se précipita dans la mer. Après quelques jours de navigation, le vent favorable qui avait toujours accompagné le vaisseau devint contraire et augmenta de manière qu'il excita une tempête des plus furieuses. Le vaisseau ne perdit pas seulement sa route. Behram et son pilote ne savaient plus même où ils étaient, et ils craignaient de rencontrer quelques rochers à chaque moment et de s'y briser. Au plus fort de la tempête, ils découvrirent terre, et Behram la reconnut pour l'endroit où était le port et la capitale de la reine Margiane, et il en eut une grande mortification. En effet, la reine Margiane, qui était musulmane, était ennemie mortelle des adorateurs du feu. Non seulement elle n'en souffrait pas un seul dans ses états, elle ne permettait même pas qu'aucun de leurs vaisseaux y abordât. Il n'était plus au pouvoir de Behram, cependant, d'éviter d'aller border au port de la capitale de cette reine, à moins d'aller échouer et se perdre contre la côte qui était bordée de rochers affreux. Dans cette extrémité, il tint conseil avec son pilote et avec ses matelots. « Enfant, dit-il, vous voyez la nécessité où nous sommes réduits. De deux choses l'une, ou il faut que nous soyons engloutis par les flots, ou que nous nous sauvions chez la reine Margiane. Mais sa haine implacable contre notre religion et contre ceux qui en font profession vous est connue. Elle ne manquera pas de se saisir de notre vaisseau et de nous faire ôter la vie à tous sans miséricorde. Je ne vois qu'un seul remède qui peut-être nous réussira. Je suis d'avis que nous ôtions de la chaîne le musulman que nous avons ici et que nous l'habillions en esclave. Quand la reine Margiane m'aura fait venir devant elle et qu'elle me demandera quel est mon négoce, je lui répondrai que je suis marchand d'esclaves, que j'ai vendu tout ce que j'en avais, et que j'en ai réservé qu'un seul pour me servir d'écrivain, à cause qu'il sait lire et écrire. Elle voudra le voir, et comme il est bien fait, et que d'ailleurs il est de sa religion, elle en sera touchée de compassion. Il ne manquera pas de me proposer de le lui vendre, et, en cette considération, de nous souffrir dans son port jusqu'au premier beau temps. Si vous savez quelque chose de meilleur, dites-le-moi, je vous écouterai. Le pilote et les matelots applaudirent à son sentiment qui fut suivi. La sultane Scheherazade fut obligée d'en demeurer à ses derniers mots à cause du jour qui se faisait voir. Elle reprit le même conte la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 234e nuit. Sire, Behram fit ôter le prince Assad de la chaîne et le fit habiller en esclave fort proprement, selon le rang d'écrivain de son vaisseau, sous lequel il voulait le faire paraître devant la reine Margiane. Et fut à peine dans l'état qu'il le souhaitait que le vaisseau entra dans le port où il fit jeter l'ancre. Dès que la reine Margiane, qui avait son palais situé du côté de la mer, de manière que le jardin s'étendait jusqu'au rivage, eut vu que le vaisseau avait mouillé, elle envoya avertir le capitaine de venir lui parler, et pour satisfaire plutôt sa curiosité, elle vint l'attendre dans le jardin. Behram, qui s'était attendu à être appelé, débarqua avec le prince Assad, après avoir exigé de lui de confirmer qu'il était son esclave et son écrivain, et fut conduit devant la reine Margiane. Il se jeta à ses pieds et après lui avoir marqué la nécessité qui l'avait obligé de se réfugier dans son port, il lui dit qu'il était marchand d'esclaves. Qu'Assad, qui l'avait amené, était le seul qui lui resta et qu'il gardait pour lui servir d'écrivain. Assad avait plu à la reine Margiane du moment qu'elle l'avait vu, et elle fut ravie d'apprendre qu'il fût esclave. Résolue à l'acheter, à quelque prix que ce fût, elle demanda à Assad comment il s'appelait. « Grande reine, reprit le prince Assad, les larmes aux yeux, votre majesté me demande-t-elle le nom que je portais ci-devant ou le nom que je porte aujourd'hui ?»« Comment, repartit la reine, est-ce que vous avez deux noms ?»« Hélas, il n'est que trop vrai, répliqua Assad. Je m'appelais autrefois Assad, très heureux, et aujourd'hui je m'appelle Motar, destiné à être sacrifié. » Margiane, qui ne pouvait pénétrer le vrai sens de cette réponse, l'appliqua à l'état de son esclave et connut en même temps qu'il avait beaucoup d'esprit. « Puisque vous êtes écrivain, lui dit-elle ensuite, je ne doute pas que vous ne sachiez bien écrire. Faites-moi voir de votre écriture. » Assad, muni d'une écritoire qu'il portait à sa ceinture et de papier, par les soins de Behram qui n'avait pas oublié ses circonstances pour persuader à la reine ce qu'il voulait qu'elle crût, se retira un peu à l'écart et écrivit ses sentences par rapport à sa misère. L'aveugle se détourne de la fosse où le clairvoyant se laisse tomber. L'ignorant s'élève aux dignités par des discours qui ne signifient rien. Le savant demeure dans la poussière avec son éloquence. Le musulman est dans la dernière misère avec toutes ses richesses. L'infidèle triomphe au milieu de ses biens. On ne peut pas espérer que les choses changent. C'est un décret du Tout-Puissant qu'elle demeure dans cet état. Assad présenta le papier à la reine Margiane, qui n'admira pas moins la moralité des sentences que la beauté du caractère. Et il n'en fallut pas davantage pour achever d'embraser son cœur et de le toucher d'une véritable compassion pour lui. Elle n'eut pas plutôt achevé de le lire qu'elle s'adressa à Behram. « Choisissez, lui dit-elle, de me vendre cet esclave ou de m'en faire un présent. Peut-être trouverez-vous mieux votre compte de choisir le dernier. » Behram reprit assez insolemment qu'il n'avait pas de choix à faire, qu'il avait besoin de son esclave et qu'il voulait le garder. La reine Margiane, irritée de cette hardiesse, ne voulut point parler davantage à Behram. Elle prit le prince Assad par le bras, le fit marcher devant elle, et en l'emmenant à son palais, elle envoya dire à Behram qu'elle ferait confisquer toutes ses marchandises et mettre le feu à son vaisseau au milieu du port s'il y passait la nuit. Behram fut contraint de retourner à son vaisseau, bien mortifié, et de faire préparer toutes choses pour remettre à la voile, quoique la tempête ne fût pas encore entièrement apaisée. La reine Margiane, après avoir commandé en entrant dans son palais que l'on servit promptement le souper, mena Assad à son appartement où elle le fit asseoir près d'elle. Assad voulut s'en défendre en disant que cet honneur n'appartenait pas à un esclave. « À un esclave ? » reprit la reine. « Il n'y a qu'un moment que vous l'étiez, mais vous ne l'êtes plus. Asseyez-vous près de moi, vous dis-je, et racontez-moi votre histoire, car ce que vous avez écrit pour me faire voir de votre écriture et l'insolence de ce marchand d'esclaves me font comprendre qu'elle doit être extraordinaire. » Le prince Assad obéit, et quand il fut assis, « Puissante reine, dit-il, votre majesté ne se trompe pas. Mon histoire est véritablement extraordinaire, et plus qu'elle ne pourrait se l'imaginer. Les maux, les tourments incroyables que j'ai soufferts, et le genre de mort auquel j'étais destinée, dont elle m'a délivrée par sa générosité toute royale, lui feront connaître la grandeur de son bienfait que je n'oublierai jamais. Mais avant d'entrer dans ce détail qui fait horreur, elle voudra bien que je prenne l'origine de mes malheurs de plus haut. » Après ce préambule, qui augmenta la curiosité de Margiane, Assad commença par l'informer de sa naissance royale, de celle de son frère Amjad, de leur amitié réciproque, de la passion condamnable de leur belle-mère changée en une haine des plus odieuses, la source de leur étrange destinée. Il vint ensuite à la colère du roi leur père, à la manière presque miraculeuse de la conservation de leur vie, et enfin à la perte qu'il avait faite de son frère et à la prison si longue et si douloureuse dont on ne l'avait fait sortir que pour être immolé sur la montagne du feu. Quand Assad eut achevé son discours, la reine Margiane, animée plus que jamais contre les adorateurs du feu, « Prince, dit-elle, nonobstant l'aversion que j'ai toujours eue contre les adorateurs du feu, je n'ai pas laissé d'avoir beaucoup d'humanité pour eux. Mais après le traitement barbare qu'ils vous ont fait et leur dessein exécrable de faire une victime de votre personne à leur feu, je leur déclare dès à présent une guerre implacable. » Elle voulait s'étendre davantage sur ce sujet, mais l'on servit, et elle se mit à table avec le prince Assad, charmée de le voir et de l'entendre, et déjà prévenue pour lui d'une passion dont elle se promettait de trouver bientôt l'occasion de le faire apercevoir. « Prince, lui dit-elle, il faut vous bien récompenser de tant de jeûnes et de tant de mauvais repas que les impitoyables adorateurs du feu vous ont fait faire. Vous avez besoin de nourriture après tant de souffrances. » En lui disant ces paroles, et d'autres à peu près semblables, elle lui servait à manger et lui faisait verser à boire coup sur coup. Le repas dura longtemps, et le prince Assad but quelques coups plus qu'il ne pouvait porter. Quand la table fut levée, Assad eut besoin de sortir, et il prit son temps de manière que la reine ne s'en aperçut pas. Il descendit dans la cour, et comme il vit la porte du jardin ouverte, il y entra. Attiré par les beautés dont il était diversifié, il s'y promena un espace de temps. Il alla enfin jusqu'à un jet d'eau qui en faisait le plus grand agrément. Il s'y lava les mains et le visage pour se rafraîchir, et en voulant se reposer sur le gazon dont il était bordé, il s'y endormit. La nuit approchait alors, et Behram, qui ne voulait pas donner lieu à la reine Margiane d'exécuter sa menace, avait déjà levé l'ancre, bien fâché de la perte qu'il avait faite d'Assad, et d'être frustré de l'espérance d'en faire un sacrifice. Il tâchait néanmoins de se consoler sur ce que la tempête était cessée, et qu'un vent de terre le favorisait pour s'éloigner. Dès qu'il se fut tiré hors du port avec l'aide de sa chaloupe, avant de la tirer dans le vaisseau, « Enfant, dit-il au matelot qui était dedans, attendez, ne remontez pas. Je vais vous faire donner des barils pour faire de l'eau, et je vous attendrai sur les bords. » Les matelots, qui ne savaient pas où ils en pourraient faire, voulurent s'en excuser. Mais comme Behram avait parlé à la reine dans le jardin et qu'il avait remarqué le jet d'eau, « Allez aborder devant le jardin du palais, reprit-il. « Passez par-dessus le mur qui n'est qu'à hauteur d'appui. Vous trouverez à faire de l'eau suffisamment dans le bassin qui est au milieu du jardin. » Les matelots allèrent aborder où Behram leur avait marqué, et après qu'ils se furent chargés chacun d'un baril sur l'épaule, en débarquant, ils passèrent aisément par-dessus le mur. En approchant du bassin, comme ils eurent aperçu un homme couché qui dormait sur le bord, ils s'approchèrent de lui et ils le reconnurent pour Assad. Ils se partagèrent. Et pendant que les uns firent quelques barils d'eau avec le moins de bruit qu'il leur fut possible, sans perdre le temps à les emplir tous, les autres environnèrent Assad et l'observèrent pour l'arrêter au cas qu'il s'éveillât. Il leur donna tout le temps, et dès que les barils furent pleins et chargés sur les épaules de ceux qui devaient les emporter, les autres se saisirent de lui et l'emmenèrent sans lui donner le temps de se reconnaître. Ils le passèrent par-dessus le mur, l'embarquèrent avec leurs barils et le transportèrent au vaisseau à force de rames. Quand ils furent prêts d'aborder au vaisseau. « Capitaine, s'écrièrent-ils avec des éclats de joie, faites jouer vos hautbois et vos tambours, nous vous ramenons votre esclave. » Behram, qui ne pouvait comprendre comment ses matelots avaient pu retrouver et reprendre Assad, et qui ne pouvait aussi l'apercevoir dans la chaloupe à cause de la nuit, attendait avec impatience qu'ils fussent remontés sur le vaisseau pour leur demander ce qu'il voulait dire. Mais quand il le vit devant ses yeux, il ne put se contenir de joie, et sans s'informer comment il s'y était pris pour faire une si belle capture, il le fit remettre à la chaîne. Et après avoir fait tirer la chaloupe dans le vaisseau en diligence, il fit force de voile en reprenant la route de la montagne du feu. La sultane Scheherazade ne passa pas outre pour cette nuit. Elle poursuivit la suivante et dit au sultan des Indes. 235e nuit. Sire, j'achevais hier en faisant remarquer à votre majesté que Behram avait repris la route de la montagne du feu, bien joyeux de ce que ses matelots avaient ramené le prince Assad. La reine Margiane, cependant, était dans de grandes alarmes. Elle ne s'inquiéta pas d'abord quand elle se fut aperçue que le prince Assad était sorti. Comme elle ne douta pas qu'il ne dût revenir bientôt, elle l'attendit avec patience. Au bout de quelque temps qu'elle vit qu'il ne paraissait pas, elle commanda à ses femmes de voir où il était. Elles le cherchèrent, elles ne lui en apportèrent pas de nouvelles. La nuit vint, elle le fit chercher à la lumière, mais aussi inutilement. Dans l'impatience et dans l'alarme où la reine Margiane fut alors, elle alla le chercher elle-même à la lumière des flambeaux, et comme elle eut aperçu que la porte du jardin était ouverte, elle y entra et le parcourut avec ses femmes. En passant près du jet d'eau et du bassin, elle remarqua une babouche sur le bord du gazon, qu'elle fit ramasser, et elle la reconnut pour une des deux du prince, de même que ses femmes. Cela, joint à l'eau répandue sur le bord du bassin, lui fit croire que Behram pourrait bien l'avoir fait enlever. Elle envoya savoir dans le moment s'il était encore au port, et comme elle eut appris qu'il avait fait voile un peu avant la nuit, qu'il s'était arrêté quelque temps sur les bords, et que sa chaloupe était venue faire de l'eau dans le jardin, Elle envoya avertir le commandant de 10 vaisseaux de guerre qu'elle avait dans son port toujours équipés et prêts à partir au premier commandement, qu'elle voulait s'embarquer en personne le lendemain à 1 heure de jour. Le commandant fit ses diligences. Il assembla les capitaines, les autres officiers, les matelots, les soldats, et tout fut embarqué à l'heure qu'elle avait souhaité. Elle s'embarqua, et quand son esclave fut hors du port et à la voile, elle déclara son intention au commandant. « Je veux, dit-elle, que vous fassiez force de voile et que vous donniez la chasse au vaisseau marchand qui partit de ce port hier au soir. Je vous l'abandonne si vous le prenez, mais si vous ne le prenez pas, votre vie m'en répondra. » Les 10 vaisseaux donnèrent la chasse au vaisseau de Béram 2 jours entiers et ne virent rien. Ils le découvrirent le 3e jour à la pointe du jour. Et sur le midi, ils l'environnèrent de manière qu'il ne pouvait pas s'échapper. Dès que le cruel Béram eut aperçu les 10 vaisseaux, il ne douta pas que ce ne fût l'escadre de la reine Margiane qui le poursuivait, et alors il donnait la bastonnade à Assad. Car depuis son embarquement dans son vaisseau, au bord de la ville des mages, il n'avait pas manqué un jour de lui faire ce même traitement. Cela fit qu'il le maltraita plus que de coutume. Il se trouva dans un grand embarras quand il vit qu'il allait être environné. De garder Assad, c'était se déclarer coupable. De lui ôter la vie, il craignait qu'il en parût quelque marque. Il le fit déchaîner, et quand on le fait monter du fond de la cale où il était et qu'on l'eut amené devant lui, « C'est toi, dit-il, qui es cause qu'on nous poursuit !» Et en disant ces paroles, il le jeta dans la mer. Le prince Assad, qui savait nager, céda de ses pieds et de ses mains avec tant de courage à la faveur des flots qui le secondaient qu'il en eut assez pour ne pas succomber et pour gagner terre. Quand il fut sur le rivage, la première chose qu'il fit fut de remercier Dieu de l'avoir délivré d'un si grand danger et tiré encore une fois des mains des adorateurs du feu. Il se dépouilla ensuite, et après avoir bien exprimé l'eau de son habit, il l'étendit sur un rocher, où il fut bientôt séché, tant par l'ardeur du soleil que par la chaleur du rocher qui en était chauffé. Il se reposa cependant en déplorant sa misère, sans savoir en quel pays il était, ni de quel côté il tournerait. Il reprit enfin son habit, et marcha sans trop s'éloigner de la mer, jusqu'à ce qu'il eût trouvé un chemin qu'il suivit. Il chemina plus de 10 jours par un pays où personne n'habitait et où il ne trouvait que des fruits sauvages et quelques plantes le long des ruisseaux dont il vivait. Il arriva enfin près d'une ville qu'il reconnut pour celle des mages où il avait été si fort maltraité et où son frère Amjad était grand vizir. Il en eut de la joie, mais il fit bien résolution de ne pas s'approcher d'aucun adorateur du feu, mais seulement de quelques musulmans. Car il se souvenait d'y en avoir remarqué quelques-uns la première fois qu'il y était entré. Comme il était tard et qu'il savait bien que les boutiques étaient déjà fermées et qu'il trouverait peu de monde dans les rues, il prit le parti de s'arrêter dans le cimetière qui était près de la ville, où il y avait plusieurs tombeaux élevés en façon de mausolée. En cherchant, il en trouva un dont la porte était ouverte. Il y entra, résolu à y passer la nuit. Revenons présentement au vaisseau de Béram. Il ne fut pas longtemps à être investi de tous les côtés par les vaisseaux de la reine Margiane, après qu'il eut jeté le prince Assad dans la mer. Il fut abordé par le vaisseau où était la reine, et à son approche, comme il n'était pas en état de faire aucune résistance, Béram fut plier les voiles pour marquer qu'il se rendait. La reine Margiane passa elle-même sur le vaisseau et demanda à Béram où était l'écrivain qu'il avait eu la témérité d'enlever ou de faire enlever dans son palais. « Reine, répondit Béram, je jure à votre majesté qu'il n'est pas sur mon vaisseau. Elle peut le faire chercher et connaître par là mon innocence. » Margiane fit faire la visite du vaisseau avec toute l'exactitude possible, mais on ne trouva pas celui qu'elle souhaitait si passionnément de trouver, autant parce qu'elle l'aimait que par la générosité qui lui était naturelle. Elle fut sur le point d'ôter la vie à Béram de sa propre main. Mais elle se retint et elle se contenta de confisquer son vaisseau et toute sa charge et de le renvoyer par terre avec tous ses matelots, en lui laissant sa chaloupe pour y aller aborder. Béram, accompagné de ses matelots, arriva à la ville des mages la même nuit qu'Assad s'était arrêté dans le cimetière et retiré dans le tombeau. Comme la porte était fermée, il fut contraint de chercher aussi dans le cimetière quelques tombeaux pour y attendre qu'il fût jour et qu'on l'ouvrît. Par malheur pour Assad, Béram passa devant celui où il était. Il y entra et il y vit un homme qui dormait, la tête enveloppée dans son habit. Assad s'éveilla au bruit et en levant la tête, il demanda qui c'était. Béram le reconnut d'abord. « Ah ah » dit-il, « vous êtes donc celui qui est cause que je suis ruiné pour le reste de ma vie. Vous n'avez pas été sacrifié cette année, mais vous n'échapperez pas de même l'année prochaine. » En disant ces paroles, il se jeta sur lui, lui mit son mouchoir sur la bouche pour l'empêcher de crier, et le fit lier par ses matelots. Le lendemain matin, dès que la porte fut ouverte, il fut aisé à Béram de ramener Assad chez le vieillard qu'il avait abusé avec tant de méchanceté, par des rues détournées où personne n'était encore levé. Dès qu'il y fut entré, il le fit descendre dans le même cachot d'où il avait été tiré, et informa le vieillard du triste sujet de son retour et du malheureux succès de son voyage. Le méchant vieillard n'oublia pas d'enjoindre à ses deux filles de maltraiter le prince infortuné plus qu'auparavant s'il était possible. Assad fut extrêmement surpris de se revoir dans le même lieu où il avait déjà tant souffert. Et dans l'attente des mêmes tourments dont il avait cru être délivré pour toujours, il pleurait la rigueur de son destin lorsqu'il vit entrer Bostane avec un bâton, un pain et une cruche d'eau. Il frémit à la vue de cet impitoyable et à la seule pensée des supplices journaliers qu'il avait encore à souffrir toute une année pour mourir ensuite d'une manière pleine d'horreur. Mais le jour que la sultane Scheherazade vit paraître, comme elle en était à ses dernières paroles, l'obligea de s'interrompre. Elle reprit le même conte la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 236e nuit. Sire, Bostane traita le malheureux prince Assad aussi cruellement qu'elle l'avait déjà fait dans sa première détention. Les lamentations, les plaintes, les instantes prières d'Assad qui la suppliait de l'épargner, jointes à ses larmes, furent si vives que Bostane ne put s'empêcher d'en être attendrie et de verser des larmes avec lui. « Seigneur, lui dit-elle en lui recouvrant les épaules, je vous demande 1000 pardons de la cruauté avec laquelle je vous ai traité ci-devant et dont je viens de vous faire sentir encore les effets. Jusqu'à présent, je ne peux désobéir à un père injustement animé contre vous et acharné à votre perte. Mais enfin, je déteste et j'abhorre cette barbarie. Consolez-vous, vos mots sont finis, et je vais tâcher de réparer tous mes crimes dont je connais l'énormité par de meilleurs traitements. Vous m'avez regardé jusqu'aujourd'hui comme une infidèle. Regardez-moi présentement comme une musulmane. J'ai déjà quelques instructions qu'une esclave de votre religion qui me sert m'a données. J'espère que vous voudrez bien achever ce qu'elle a commencé. Pour vous marquer ma bonne intention, je demande pardon au vrai Dieu de toutes mes offenses pour les mauvais traitements que je vous ai faits, et j'ai confiance qu'il me fera trouver le moyen de vous mettre dans une entière liberté. » Ce discours fut d'une grande consolation au prince Assad. Il rendit des actions de grâce à Dieu de ce qu'il avait touché le cœur de Bostane. Et après qu'il l'eût bien remerciée des bons sentiments où elle était pour lui, il n'oublia rien pour l'y confirmer, non seulement en achevant de l'instruire de la religion musulmane, mais même en lui faisant le récit de son histoire et de toutes ses disgrâces, malgré le haut rang de sa naissance. Quand il fut entièrement assuré de sa fermeté dans la bonne résolution qu'elle avait prise, il lui demanda comment elle ferait pour empêcher que sa sœur Kavam n'en eût connaissance et ne vînt le maltraiter à son tour. « Que cela ne vous chagrine pas, reprit Bostane, je saurais bien faire en sorte qu'elle ne se mêle plus de vous voir. » En effet, Bostane sut toujours prévenir Kavam toutes les fois qu'elle voulait descendre au cachot. Elle voyait cependant fort souvent le prince Assad, et au lieu de ne lui porter que du pain et de l'eau, elle lui portait du vin et de bons mets qu'elle faisait préparer par 12 esclaves musulmanes qui la servaient. Elle mangeait même de temps en temps avec lui, et faisait tout ce qu'il était en son pouvoir pour le consoler. Quelques jours après, Bostane était à la porte de la maison, lorsqu'elle entendit un crieur public qui publiait quelque chose. Comme elle n'entendait pas ce que c'était à cause que le crieur était trop éloigné et qu'il approchait pour passer devant la maison, elle rentra et en tenant la porte à demi ouverte, elle vit qu'il marchait devant le grand vizir Amjad, prince du frère Assad, accompagné de plusieurs officiers et de quantités de gens qui marchaient devant et après lui. Le crieur n'était plus qu'à quelques pas de la porte lorsqu'il répéta ce cri à haute voix. « L'excellent et l'illustre vizir que voici en personne cherche son cher frère qui s'est séparé d'avec lui il y a plus d'un an. Il est fait de telle et telle manière, si quelqu'un le garde chez lui ou sait où il est, son excellence commande qu'il ait à le lui amener ou à lui en donner avis avec promesse de le bien récompenser. Si quelqu'un le cache et qu'on le découvre, son excellence déclare qu'elle le punira de mort, lui, sa femme, ses enfants et toute sa famille, et fera raser sa maison. » Bostane n'eut pas plutôt entendu ces paroles qu'elle ferma la porte au plus vite et alla trouver Assad dans le cachot. « Prince, lui dit-elle avec joie, vous êtes à la fin de vos malheurs. Suivez-moi et venez promptement. » Assad, qu'elle avait ôté de la chaîne dès le premier jour qu'il avait été ramené dans le cachot, la suivit jusque dans la rue où elle cria « Le voici, le voici !» Le grand vizir, qui n'était pas encore éloigné, se retourna. Assad le reconnut pour son frère, courut à lui et l'embrassa. Amjad, qui le reconnut aussi d'abord, l'embrassa de même très étroitement, le fit monter sur le cheval d'un de ses officiers qui mit pied à terre et le mena au palais en triomphe où il le présenta au roi qui le fit un de ses vizirs. Bostan, qui n'avait pas voulu rentrer chez son père dont la maison fut rasée dès le même jour et qui n'avait pas perdu le prince Assad de vue jusqu'au palais, fut envoyé à l'appartement de la reine. Le vieillard, son père et Behram, amenés devant le roi avec leur famille, furent condamnés à avoir la tête tranchée. Ils se jetèrent à ses pieds et implorèrent sa clémence. « Il n'y a pas de grâce pour vous, reprit le roi, que vous ne renonciez à l'adoration du feu et que vous n'embrassiez la religion musulmane. » Ils sauvèrent leur vie en prenant ce parti, de même que Kavam, sœur de Bostan et leur famille. En considération de ce que Behram s'était fait musulman, Amjad, qui voulut le récompenser de la perte qu'il avait faite avant de mériter sa grâce, le fit un de ses principaux officiers et le logea chez lui. Behram, informé en peu de jours de l'histoire d'Amjad, son bienfaiteur, et d'Assad, son frère, leur proposa de faire équiper un vaisseau et de le remener au roi Kamar al-Zaman, leur père. « Apparemment, leur dit-il, qu'il a reconnu votre innocence et qu'il désire impatiemment de vous revoir. Si cela n'est pas, il ne sera pas difficile de la lui faire reconnaître avant de débarquer, et s'il demeure dans son injuste prévention, vous n'aurez que la peine de revenir. » Les deux frères acceptèrent l'offre de Behram. Ils parlèrent de leur dessein au roi, qui l'approuva, et donnèrent ordre à l'équipement d'un vaisseau. Behram s'y employa avec toute la diligence possible. Et quand il fut prêt à mettre la voile, les princes allèrent prendre congé du roi un matin, avant d'aller s'embarquer. Dans le temps qu'ils faisaient leurs compliments et qu'ils remerciaient le roi de ses bontés, on entendit un grand tumulte par toute la ville, et en même temps, un officier vint annoncer qu'une grande armée s'approchait et que personne ne savait quelle armée c'était. Dans l'alarme que cette fâcheuse nouvelle donna au roi, Amjad prit la parole. « Sire, lui dit-il, quoique je vienne de remettre entre les mains de votre majesté la dignité de son premier ministre dont elle m'avait honoré, je suis prêt néanmoins de lui rendre encore service, et je la supplie de vouloir bien que j'aille voir qui est cet ennemi qui vient vous attaquer dans votre capitale sans vous avoir déclaré la guerre auparavant. » Le roi l'en pria, et il partit sur le champ avec peu de suite. Le prince Amjad ne fut pas longtemps à découvrir l'armée qui lui parut puissante et qui avançait toujours. Les avant-coureurs, qui avaient leurs ordres, le reçurent favorablement et le menèrent devant la princesse qui s'arrêta avec toute son armée pour lui parler. Le prince Amjad lui fit une profonde révérence et lui demanda si elle venait comme amie ou comme ennemie, et si elle venait comme ennemie, quel sujet de plainte elle avait contre le roi son maître. « Je viens comme amie, répondit la princesse, et je n'ai aucun sujet de mécontentement contre le roi des mages. Ses états et les miens sont situés d'une manière qu'il est difficile que nous puissions avoir aucun démêlé ensemble. Je viens seulement demander un esclave nommé Assad, qui m'a été enlevé par un capitaine de cette ville qui s'appelle Behram, le plus insolent de tous les hommes. Et j'espère que votre roi me fera justice quand il saura que je suis Margiane. » Puissante reine, reprit le prince Amjad, je suis le frère de cet esclave que vous cherchez avec tant de peine. Je l'avais perdu et je l'ai retrouvé. Venez, je vous le livrerai moi-même, et j'aurai l'honneur de vous entretenir de tout le reste. Le roi mon maître sera ravi de vous voir. Pendant que l'armée de la reine Margiane campa au même endroit par son ordre, le prince Amjad l'accompagna jusque dans la ville et jusqu'au palais, où il la présenta au roi, et après que le roi l'eut reçue comme elle le méritait, le prince Assad, qui était présent et qui l'avait reconnue dès qu'elle avait paru, lui fit son compliment. Elle lui témoignait de la joie qu'elle avait de le revoir lorsqu'on vint apprendre au roi qu'une armée plus formidable que la première paraissait d'un autre côté de la ville. Le roi des mages, épouvanté plus que la première fois de l'arrivée d'une seconde armée plus nombreuse que la première, comme on en jugeait lui-même par les nuages de poussière qu'elle excitait à son approche et qui couvraient déjà le ciel. « Amjad, s'écria-t-il, où en sommes-nous? Voilà une nouvelle armée qui va nous accabler. » Amjad comprit l'intention du roi. Il monta à cheval et courut à toute bride au-devant de cette nouvelle armée. Il demanda au premier qu'il rencontra à parler à celui qui la commandait. Et on le conduisit devant un roi qu'il reconnut à la couronne qu'il portait sur la tête. De si loin qu'il l'aperçut, il mit pied à terre, et lorsqu'il fut près de lui, après qu'il se fut jeté la face en terre, il lui demanda ce qu'il souhaitait du roi son maître. « Je m'appelle Gayour, reprit le roi, et je suis roi de la Chine. Le désir d'apprendre des nouvelles d'une fille nommée Badour, que j'ai mariée depuis plusieurs années au prince Kamaralzaman, fils du roi Charzaman, roi des îles des enfants de Caledan, m'a obligée de sortir de mes états. J'avais permis à ce prince d'aller voir le roi son père, à la charge de venir me revoir d'année en année avec ma fille. Depuis tant de temps cependant, je n'en ai pas entendu parler. Votre roi obligerait un père affligé de lui apprendre ce qu'il en peut savoir. » Le prince Amjad, qui reconnut le roi son grand-père à ce discours, lui baisa la main avec tendresse et en lui répondant. « Sire, dit-il, votre majesté me pardonnera cette liberté quand elle saura que je la prends pour lui rendre mes respects comme à mon grand-père. Je suis fils de Kamaralzaman, aujourd'hui roi de l'île d'Ébène et de la reine Badour dont elle est en peine, et je ne doute pas qu'il ne soit en parfaite santé sans le royaume. » Le roi de la Chine, ravi de voir son petit-fils, l'embrassa aussitôt très tendrement, et cette rencontre si heureuse et si peu attendue leur tira des larmes de part et d'autre. Sur la demande qu'il fit au prince Amjad du sujet qu'il avait amené dans ce pays étranger, le prince lui raconta toute son histoire et celle du prince Assad, son frère. Quand il eut achevé, « Mon fils, reprit le roi de la Chine, il n'est pas juste que des princes innocents comme vous soient maltraités plus longtemps. Consolez-vous, je vous ramènerai, vous et votre frère, et je ferai votre paix. Retournez et faites part de mon arrivée à votre frère. » Pendant que le roi de la Chine campa à l'endroit où le prince Amjad l'avait trouvé, le prince Amjad retourna rendre réponse au roi des mages, qui l'attendait avec grande impatience. Le roi fut extrêmement surpris d'apprendre qu'un roi aussi puissant que celui de la Chine eût entrepris un voyage si long et si pénible, excité par le désir de voir sa fille, et qu'il fût si près de sa capitale. Il donna aussitôt les ordres pour le bien régaler et se mit en état d'aller le voir. Dans cet intervalle, on vit paraître une grande poussière d'un autre côté de la ville, et l'on apprit bientôt que c'était une troisième armée qui arrivait. Cela obligea le roi de demeurer et de prier le prince Amjad d'aller voir encore ce qu'elle demandait. Amjad partit, et le prince Assad l'accompagna cette fois. Ils trouvèrent que c'était l'armée de Kamaralzaman, leur père, qui venait les chercher. Il avait donné des marques d'une si grande douleur de les avoir perdus que l'émir Djondar, à la fin, lui avait déclaré de quelle manière il leur avait conservé la vie, ce qui l'avait fait résoudre de les aller chercher en quelque pays qu'ils fussent. Ce père affligé embrassa les deux princes avec des ruisseaux de larmes de joie, qui terminèrent agréablement les larmes d'affliction qu'ils versaient depuis si longtemps. Les princes ne lui eurent pas plutôt appris que le roi de la Chine, son beau-père, venait d'arriver aussi le même jour. Il se détacha avec eux et avec peu de suite et alla le voir en son camp. Ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin qu'ils aperçurent une quatrième armée qui s'avançait en bel ordre et paraissait venir du côté de Perse. Kamaralzaman dit au prince ses fils d'aller voir quelle armée c'était et qu'il les attendrait. Ils partirent aussitôt, et à leur arrivée, ils furent présentés au roi à qui l'armée appartenait. Après l'avoir salué profondément, ils lui demandèrent à quel dessein il s'était approché de si près de la capitale du roi des mages. Le grand vizir qui était présent prit la parole. « Le roi à qui vous venez de parler, leur dit-il, est Charzaman, roi des îles des enfants de Caledan, qui voyage depuis longtemps dans l'équipage que vous voyez en cherchant le prince Kamaralzaman, son fils, qui est sorti de ses états il y a de longues années. Si vous en avez quelques nouvelles, vous lui ferez le plus grand plaisir du monde de l'en informer. » Les princes ne répondirent autre chose, sinon qu'ils apporteraient la réponse dans peu de temps. Et ils revinrent à toute bride annoncer à Kamaralzaman que la dernière armée qui venait d'arriver était celle du roi Charzaman et que le roi son père y était en personne. L'étonnement, la surprise, la joie, la douleur d'avoir abandonné le roi son père sans prendre congé de lui firent un si puissant effet sur l'esprit du roi Kamaralzaman qu'il tomba évanoui dès qu'il eut appris qu'il était si près de lui. Il revint à la fin par l'empressement des princes Amjad et Assad à le soulager, et lorsqu'il se sentit assez de force, il alla se jeter aux pieds du roi Charzaman. De longtemps, il ne s'était vu une entrevue si tendre entre un père et un fils. Charzaman se plaignit obligeamment au roi Kamaralzaman de l'insensibilité qu'il avait eue en s'éloignant de lui d'une manière si cruelle, et Kamaralzaman lui témoignait un véritable regret de la faute que l'amour lui avait fait commettre. Les trois rois et la reine Margiane demeurèrent 3 jours à la cour du roi des mages, qui les régala magnifiquement. Ces 3 jours furent aussi très remarquables par le mariage du prince Assad avec la reine Margiane et du prince Amjad avec Bostan, en considération du service qu'elle avait rendu au prince Assad. Les 3 rois, enfin, et la reine Margiane avec Assad, son époux, se retirèrent chacun dans leur royaume. Pour ce qui est d'Amjad, le roi des mages qu'il avait pris en affection et qui était déjà fort âgé, lui mit la couronne sur la tête. Et Amjad mit toute son application à détruire le culte du feu et à établir la religion musulmane dans ses états.